Nous sommes, j'en suis certaine, nombreuses et nombreux à nous souvenir de lieux déterminants de notre enfance et adolescence, des lieux qui nous ont ouvert leurs portes et des portes. Je pense notamment à des bibliothèques de quartier dont le coin jeune public était magnifiquement fourni et où il y avait toujours quelqu'un de volontaire pour y lire quelques plusieurs pages à voix haute. Je pense ensuite à des médiathèques plus tard, plus grandes et plus lumineuses, dans lesquelles il était possible de découvrir de la littérature écrite maintenant et de la musique produite maintenant, de sorte que le monde de maintenant s'en trouvait éclairé différemment. Et je pense aussi à toutes les MJC dans lesquelles nous avons dansé, débattu, fait de la musique ou appris à faire du théâtre. Autant de lieux qui ne sont pas la maison, qui ne sont pas la rue, pas non plus la cabane solitaire dans les arbres, et qui sont autant de passerelles si précieuses. Il est 14h passé de 1 minute, nous pensons les Nouvelles Vagues comme un lieu radiophonique ouvert. Bienvenue. Nous savons lire les lieux de l'extérieur, deviner les matériaux qu'on trouvera à l'intérieur, les types de mobilier, les types de couloirs. Voilà comment Valérie Novelle décrit le savoir-faire des assistants metteurs en scène en charge des décors, c'est son métier. Aujourd'hui, elle évoque le tournage du film Le Grand Partage.
Donc l'immeuble vide à Paris, c'est c'est vraiment le Graal pour le repéreur.
Et c'est exactement ce qu'on lui demandait, un immeuble vide haussmannien avec des appartements d'au moins 200 mètres carrés. Cette fois-ci, Valérie Novelle tombe sur une mine, elle nous raconte vers 14h50. C'est le troisième temps de ce chantier thématique consacré aux lieux. Aujourd'hui, ils sont ouverts, eux aussi, ils sont publics et ils sont numériques. Leur nom ne recule devant aucun jeu de mots en lien avec le quartier ou le département dans lequel ils sont implantés. Aussi, vous avez peut-être entendu parler de la goutte d'ordinateur, des cybercases, du cybercantal, de SolidaireNet ou encore du dispositif Panda. Oui ou non, en tout cas, dans ces lieux, on peut se former au traitement de texte informatique, mais aussi apprendre à gérer ses fichiers de photos numériques, se créer et utiliser une adresse mail, se sensibiliser à l'e-administration, tirer plutôt du côté Fab Lab ou alors tout simplement avoir accès à Internet et à des machines. La dimension d'accueil est au centre de ce réseau d'espaces publics numériques dont plus de 2000 d'entre eux en France répondent aux critères du label Net Public, on reviendra peut-être là-dessus. Alors on a deux invités qui sont en route, qui arrivent vers ce lieu ouvert qui est l'émission Les Nouvelles Vagues, et on a quelqu'un d'autre qui est déjà là, mais au téléphone. Anthony Offred, bonjour.
Bonjour Marie Richeux.
Et vous êtes au téléphone depuis Brest, en Bretagne. Vous profitez de travailler à distance pour prendre une petite heure sur votre journée. On vous en remercie pour répondre à nos questions. Comment décrire votre fonction? Vous êtes rattaché au Petit Débrouillard de Bretagne. Vous êtes responsable des questions numériques pour cette association et coordinateur dans cette EPN, c'est donc le sigle pour décrire espace public numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble ce lieu, si vous essayez de le décrire?
Oui, alors c'est une particularité puisqu'à Brest, les EPN s'appellent des PAPI, des points d'accès public à Internet. Et nous, on a installé notre PAPI dans la MAMI, la salle qui s'appelle en fait... attendez, je ne sais plus comment s'appelle la salle.
On s'y perd dans les jeux de mots du coup, forcément.
C'est ça, voilà. Médiation, appropriation et maîtrise de l'informatique expérimentale. Voilà comment on a nommé notre salle. En fait, c'est une salle qui fait 30 mètres carrés, qui a trois tables rondes sur laquelle trônent 9 ordinateurs, donc 3 ordinateurs par table. Elles sont en rond parce qu'on a pensé que c'était mieux pour les gens de pouvoir se regarder, il suffit de se pencher sur le côté, et on voit la personne qui est à côté de soi pour pouvoir échanger, discuter quand on suit des activités. Il y a un vidéoprojecteur avec un écran sur un mur, et sur tous les murs de la salle, qui est assez petite, on a une exposition qui s'appelle Génération 2.0, qui est une exposition qu'on a conçue avec une école d'art graphique, l'ISA, Institut supérieur des arts appliqués de Rennes, sur les questions du numérique, des cultures liées à Internet et les questions que ça pose.
Et c'est une exposition qui a toujours été accrochée à ces murs-là, ou alors vos murs changent de décoration de temps à autre puisqu'on parle du lieu?
Eh bien, cette exposition a toujours été affichée sur ces murs-là. C'est vrai que c'est resté pendant quelques années. Alors, c'est un EPN un peu particulier puisque le cœur de l'activité de cet EPN, c'est surtout la formation d'adultes pour l'appropriation d'Internet. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par la région Bretagne qui s'appelle le Visa Internet Bretagne. Et l'idée, c'était de former des personnes qui étaient éloignées d'Internet aux compétences de base pour savoir justement se créer un mail, utiliser la recherche d'informations sur Internet et utiliser quelques services de base d'Internet. Et on recevait aussi des jeunes sur des activités jeux en réseau, sur des activités de bidouille numérique avec des composants comme Arduino et des choses comme ça. Donc on était ouvert seulement quelques jours par semaine. Et là, le projet est en train d'évoluer, c'est pour ça que je parle un peu au passé parfois. On est en train de rapprocher le papy de notre Fab Lab, les fabriques du Ponant, avec une réflexion autour de l'évolution des activités.
Quand vous dites que vous étiez ouvert quelques jours et quelques heures par semaine, aujourd'hui, l'ouverture de cet espace, c'est quoi exactement? À quel rythme?
Bon, on est ouvert surtout une journée par semaine, le vendredi, pour recevoir tout public. Alors c'était surtout les personnes qui suivaient la formation Visa Internet Bretagne qui venaient pour poursuivre leur apprentissage, renforcer leur connaissance. Surtout des personnes assez âgées, en fait, des retraités, des vieux retraités parfois même, qui voulaient rester en contact avec leur famille, qui voulaient apprendre Skype, qui voulaient parfois certains monter un blog pour parler de leur association. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, notre particularité aussi, en tant que petit débrouillard à Brest, c'est d'être une structure qui était ouverte entièrement à la ville, donc des gens venaient de partout de la ville pour se former à cet endroit-là, et on n'est pas tellement centré sur le quartier où on est, puisqu'on est implanté aux 2 rues Paul Ducat, dans l'ancienne école Paul Ducat, école maternelle Paul Ducat, à 2 pas du centre social de Kéréderne, en fait, et on a un partenariat avec le centre social de Kéréderne, qui lui a un papy qui est ouvert plus régulièrement, donc papy toujours point d'accès public à Internet, et qui accueille le public, lui, plutôt du quartier.
On a découvert, en tout cas moi pour ma part, que le réseau de ces espaces publics numériques était très large en France. Il s'est densifié en Bretagne à partir de quand ?
Alors il y a eu une politique, en fait ce qui a permis au réseau des espaces publics numériques d'exploser en quelque sorte, hein, d'augmenter énormément, c'est le dispositif emploi jeune de Martine Aubry, on est à la fin des années 90, et là les communes ont pu créer des nouveaux emplois, nouveaux services, comme s'appelait le dispositif à l'époque, et embaucher des animateurs multimédia chargé de la gestion de ce point d'accès public à Internet, sachant que la problématique de l'époque, c'était vraiment de pouvoir avoir accès à un ordinateur connecté à Internet, puisque on va dire que la démocratisation d'Internet en France date de 95, en gros, à peu près. Tout le monde n'était pas équipé à cette époque-là, et donc c'était surtout une connexion que recherchaient les gens.
Et tout le monde ne l'est pas, on y reviendra bien sûr, parce qu'il y a un rôle aussi de ces espaces publics numériques dans la diminution de ce qu'on appelle la fracture numérique. J'ai une invitée en plus dans ce studio, bonjour, du coup j'imagine que vous êtes Virginie Maurice.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous dépendez de cet EPN parisien qui s'appelle la Goutte d'ordinateur, qui prend place, comme son nom l'indique, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Je demandais tout à l'heure à Anthony Offrette de décrire le lieu dans lequel il travaille à Brest. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour la Goutte d'ordinateur?
Oui, donc nous...
Ça ressemble à quoi?
Comme vous l'avez indiqué, on est dans le quartier de la Goutte d'Or, donc dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement. Donc ça ressemble à quoi? On a en fait une salle principale avec 10 ordinateurs, plus une dizaine d'ordinateurs portables en plus, donc on appelle EPN mobile. Donc voilà, on est à un carrefour du quartier, donc on accueille du public tout le temps en fait, c'est-à-dire que beaucoup de personnes toquent à la porte pour avoir un renseignement, une orientation, etc.
Peut-être on reviendra sur le public et sur ce que les personnes viennent chercher dans cet espace, mais si on est un peu plus précis dans la description de ce lieu, alors vous avez dit qu'il y a des ordinateurs, mais je ne sais pas comment ils sont disposés dans l'espace, est-ce qu'il y a rayonnages, des bibliothèques, des expositions, des choses au mur?
Non, enfin pas beaucoup, on a surtout des vitrines principales où il y a en effet des affiches concernant tout le quartier, des partenariats qu'on peut avoir, etc. Après, à l'intérieur même de l'EPN, donc c'est une salle avec 10 ordinateurs disposés face au mur, puisqu'on projette au mur des cours. Après, nous, on est 2 animateurs à temps plein, donc on a notre coin, on va dire bureau, où on a 2 ordinateurs pour accueillir les personnes, les inscrire et puis travailler sur la préparation de cours, la coordination, etc. Et le PN mobile qu'on sort, si on doit faire d'autres cours ailleurs en dehors de l'EPN, parce qu'on a d'autres salles aussi dans le quartier, enfin ça c'est au niveau de l'association. et où parfois on va former aussi sur place, sur site, chez des partenaires à proximité. Et comme ça, on a deux activités en simultané via le PN Mobile. Et on a aussi des tablettes, on en a une dizaine aussi. Donc voilà, pour ce qui est de la disposition matérielle.
C'est un lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous ?
Oui, très bien, oui.
Et donc vous avez plaisir, j'imagine, à accueillir des gens parce que vous-même, vous vous sentez à l'aise dans ce lieu-là.
Exactement.
Vous avez l'impression que les gens qui viennent, c'est aussi un lieu qui est facile à s'approprier pour eux ?
Alors, facile à s'approprier...
Sans forcément parler des machines dans un premier temps, mais juste d'y être.
Oui. Oui, c'est un lieu, enfin, c'est un espace convivial aussi, parce que au-delà, enfin, on en parlera plus tard, j'imagine, au-delà de la formation, on a aussi des débats, des discussions, des web radios où on fait aussi, on fait aussi participer les personnes. On y mange aussi souvent, on boit le petit café, le petit thé, on nous ramène aussi beaucoup des petits plats, hein, faut pas
le cacher. Et ça fait un lieu ?
Mais oui, ça fait un lieu, et puis on est aussi ouvert au public tous les jours, du lundi au samedi, et le lundi en gros de 10h à 21h, enfin toute la semaine de 10h à 21h, et le samedi matin de 11h à 13h. Donc on est quand même beaucoup ouvert ouvert au public tout le temps, en fait.
Et c'est un lieu qui, dans la Goutte d'Or, qui dispose d'un, très heureusement, d'un tissu associatif assez riche. C'est un lieu qui est identifié par la population, qui a une place particulière dans ce quartier. Et laquelle, d'après vous ?
Oui, complètement, dans le sens où il y a un fort maillage associatif dans le quartier de la Goutte d'Or. D'autant que l'espace public numérique est porté par une association d'associations. Au départ, où l'objet de l'association, c'est de faire du lien entre les associations et pour le public. Donc oui, on est un lieu vraiment identifié dans le quartier et même un outil pour beaucoup de partenaires, institutions. Et on est, je pense qu'on est...
Comme un nœud presque.
Un lieu ressource, oui, oui, complètement. On fait partie du quartier et on s'appuie sur aussi notre expertise parce que ça va faire pratiquement... on a été créé dans les années 2000. Donc près de 16 ans qu'on existe et beaucoup de personnes nous ont identifiés, nous identifient et savent qui on est en fait, oui.
De votre côté, Anthony Offret, vous avez la sensation que c'est un lieu où les gens se sentent bien. Si j'en crois votre description, c'est un lieu un peu plus petit à Brest. Et vous-même, est-ce que c'est un lieu où vous vous sentez bien ?
Oui, c'est un lieu où les gens se sentent bien. En fait, ça tient aussi à la compétence de l'animateur du lieu, à savoir, il accueille les personnes. Sur la formation visa Internet qu'on délivrait, ça commence toujours par un café, des petits gâteaux, et puis exactement comme le décrivait l'intervenante précédente, les gens apportent aussi des gâteaux, apportent aussi même des bières. Hein, on est à Brest, donc c'est très détendu, c'est très convivial. Et puis les gens viennent chercher aussi autre chose que simplement une compétence technique. C'est un peu l'évolution des EPN, à savoir on va vers plus un tiers-lieu que un simple lieu où on va chercher un ordinateur avec un accès à Internet. Donc les gens viennent aussi pour passer un petit moment de vie, rencontrer d'autres personnes, échanger des questions qui sont liées au mail, enfin ou à Internet, ou avec toutes les questions qui se posent. Et c'est par d'ailleurs les conversations informelles qu'apportent les participants à l'espace que naissent des nouvelles activités. Par exemple, de nos formations visa Internet sont nées ce qu'on appelait des cafés Internet qu'on a fait avec des partenaires du quartier pour traiter des sujets que les gens voulaient voir abordés. Par exemple, la e-administration, les télédéclarations d'impôts, toutes ces questions où quand on n'est pas familier de l'outil informatique, et ben il faut se former, il faut apprendre, il faut échanger. Et le mieux, c'est de créer des temps de discussion entre les personnes qui fréquentaient le lieu.
Justement, cette dimension ou l'évolution vers un tiers-lieu, vers un lieu de vie qui est peut-être... qui passerait même avant l'idée d'un lieu de, ou qui serait à égalité avec l'idée d'un lieu de formation et de sensibilisation technique, c'est quelque chose qui est exprimé par les usagers dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils recherchent.
Oui, 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 complètement. Les gens, enfin parce que Internet, mine de rien, c'est pas naturel, c'est toujours pas naturel dans le sens.
En tout cas,
où,
ça dépend pour qui.
Oui, c'est ça, voilà. C'est, bon, il y a bien des pseudo-chercheurs qui ont subthéorisé la notion de digital native. Or, on se rend compte que ça n'est pas lié au fait qu'on soit né avec une tablette dans les mains ou un ordinateur dans les mains, qu'on s'en sent plus ou moins à l'aise ou qu'on en a un usage plus ou moins riche. C'est plutôt lié à la manière dont on a été éduqué et dont on a appris à se servir des outils, qu'on va développer des compétences un peu plus élaborées. Et en fait, beaucoup de gens, enfin notamment les personnes que nous, on a en formation, c'est surtout des personnes âgées, elles sont en train de découvrir un nouvel outil, des nouvelles pratiques, et je ne sais pas si beaucoup de gens se souviennent du moment où, pour la première fois de leur vie, ils ont touché une souris et voir que quand on bouge la souris sur la table, il y a une petite flèche qui bouge sur l'écran de l'ordinateur, et rien que ça, c'est extraordinaire et c'est pas naturel du tout. Après, tout ce qu'il y a comme savoir-faire à avoir et à développer, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la surprise, il faut y aller, il faut apprendre, il faut se familiariser. Et donc les gens sont très demandeurs de compétences, de formations et de choses informelles pour se rassurer, pour discuter, pour démystifier la technologie en fait.
Et maintenant on est au complet puisqu'on vous accueille Marie-Claire Magon, bonjour. Et bienvenue. On a parlé de cet espace public numérique à la Goutte d'Or et on a dit que, évidemment, il y avait toute cette dimension de rapport aux ordinateurs, à la technologie, mais aussi le plaisir de se retrouver, de parler, de boire un café, éventuellement de manger ensemble. Vous fréquentez cet espace-là depuis combien de temps ?
Depuis 2011.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous êtes entrée dans cette EPN ?
Alors oui, c'est Virginie qui m'a accueillie justement. Alors, bon, voilà, bon, pour moi, c'était tout nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Bon, je savais ce que c'était un ordinateur. J'ai vu comme ça, sans savoir plus, quoi. Mais comme justement, je voulais apprendre, et puis ben, voilà, c'est pour ça.
Et c'était facile de pousser cette porte-là, de dire bonjour, je ne sais pas très bien me servir d'un ordinateur, est-ce que vous pouvez m'apprendre ? Vous avez hésité avant d'entrer, ou comment ça s'est passé ?
Oui, c'est-à-dire, au fait, c'est à la mairie que j'ai eu l'adresse. Mais après, bon. J'ai voulu apprendre, je ne sais pas, je suis rentrée, j'ai dit voilà, je viens pour m'inscrire, voilà, pour apprendre. Voilà, c'est comme ça. Ben après, elle m'a donné les marches à suivre, ben voilà, puis ça a continué jusqu'à maintenant.
Et jusqu'à maintenant, vous y venez combien de fois par semaine ou par mois dans cet espace ?
Oui, avant, j'allais plus régulièrement, je veux dire, mais des fois, quand je pars en vacances, je pars pour longtemps. Alors, mais dès que je reviens, je vais toujours, ça peut être deux fois par semaine ou par mois, je vais un peu plus. Mais je compte pas parce que maintenant, je suis arrivée un peu loin, quoi, je veux dire. Bon, j'ai appris quand même beaucoup de choses très intéressantes. Mais de toute façon, il y en a toujours à apprendre. Hein. Il y a toujours à apprendre. Alors, bon, c'est très intéressant, c'est enrichissant. Moi, ça me plaît.
On se demandait aussi comment on se sentait dans ce lieu-là, parce que c'est important de se sentir bien, de se sentir accueilli. Vous avez trouvé vos marques tout de suite ?
Ah oui, c'est sûr, parce que moi, je ne suis pas tellement une personne trop difficile. Alors bon, ben, quand il faut poser des questions, quand il faut parler aux autres, aux collègues, bon, ben, des fois, il y a des petites choses que moi non plus, je n'arrive pas, mais il y a quand même là, des fois, les bénévoles et tout ça et tout. Ben, voilà, je me suis fait assez facilement, quoi.
Vous aviez envie d'apprendre quoi lorsque vous avez poussé la porte de cette EPN à la Goutte d'Or ?
Moi, c'est surtout justement pour apprendre à utiliser un ordinateur et apprendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ben voilà, c'est ce que je voulais, surtout que moi-même arriver à faire quelque chose de mes doigts, de travailler ma cervelle, quoi.
Et vous vouliez faire quoi avec cet ordinateur ? Vous vouliez vous en servir pour faire quoi ?
Ah ben c'était au départ, je voulais pour me maîtriser, pour justement si après je pouvais trouver un travail comme standardiste ou quelque chose comme ça. Mais après, pour la suite, bon, vous savez, comme j'ai beaucoup de famille un peu dans le monde, et puis je veux dire, ça m'a permis de me connecter avec, me contacter les amis et même la famille qui est assez loin. Par exemple, sur Skype, je parle beaucoup avec ma famille, quoi, aussi, tout ça. Mais tout ça, c'est intéressant, c'est super.
Et ça, vous le faites toujours à l'EPN ou vous disposez maintenant d'une machine à la maison ?
Ça, c'est chez moi, oui. À l'EPN, j'y vais pour apprendre. Quand il y a des choses que c'est pas, des petits trucs, ben voilà, il faut que je sache comment ça marche. Mais j'ai appris quand même beaucoup de choses. Depuis 2011,
Oui, ça fait un paquet de cours à l'EPN. Ah, oui.
Quand on fait de la formation professionnelle aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de métier qui échappe à l'outil numérique. Alors qu'il soit sur le net ou non, plutôt sur le net aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de choses se font en ligne, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de son propre ordinateur, de sa propre extension de la maison. Hein. Il y a deux extensions de la maison aujourd'hui. Il y a la voiture dans laquelle on se rase, on téléphone et on se maquille. Et puis il y a l'ordinateur sur lequel on met les mêmes protections, les mêmes double clés. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que de plus en plus, on travaille en ligne. Et quand aujourd'hui, on accompagne quelqu'un pour se constituer une identité numérique, la première chose qu'on lui apprend à faire, c'est de se mettre en ligne. C'est-à-dire d'être apparent, d'avoir une vraie personnalité, une identité numérique.
Dominique Dardel au micro de Laurence Garcia, c'était dans l'émission Utopique à Brac, et c'était il y a 10 ans déjà, en août 2006, on entend Dominique Dardel qui à l'époque était, je ne sais pas s'il l'est encore, responsable d'un EPN, toujours à Paris, mais cette fois dans le centre social à Belleville, donc dans le 20e arrondissement, ou dans le 11e, ça dépend. Il fait vraiment le lien entre la formation professionnelle, entre des nécessités liées au travail, et pourquoi l'on vient dans un EPN. Vous disiez tout à l'heure, Marie-Claire Magon, c'est pour ça au départ, vous vouliez utiliser un ordinateur parce que vous vous disiez que vous en aviez besoin pour trouver du travail. Oui. Est-ce que 10 ans après, ce qu'on entend dans l'archive de la voix de Dominique Dardel, c'est encore le cas, Virginie Maurice? Est-ce que les personnes, dans leur premier souhait, lorsqu'ils passent la porte d'un EPN, c'est se former à l'informatique, quels que soient les outils, en lien avec les nécessités du marché du travail?
Oui, mais pas que aussi. Enfin, il faut voir aussi que le numérique, enfin, c'est on va dire une discipline transversale qu'on a besoin maintenant au quotidien. On est dans une société du numérique. On ne peut plus maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, se passer d'une connexion. Notamment, tout à l'heure, on en parlait un tout petit peu, mais la dématérialisation des sites administratifs y est entre autres pour beaucoup, puisque maintenant, pour s'actualiser sur Pôle emploi, pour même avoir accès à l'espace numérique de travail de nos enfants, les caisses de retraite, les mutuelles, la recherche d'emploi, tout se fait en ligne. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas au minimum un email et qu'on sache l'utiliser, on ne peut quasiment rien faire sur Internet et on ne peut surtout pas avoir accès à ses droits, à l'emploi, même à la citoyenneté. De plus en plus, et à l'insertion sociale. Maintenant, pour travailler, on est obligé d'avoir un compte sur Pôle emploi, son espace personnel, d'avoir son CV en ligne, de gérer ses mails, d'envoyer, recevoir, consulter. Et ça devient un outil du quotidien. Enfin, c'est pas juste...
voire une nécessité du quotidien,
une nécessité,
si on vous écoute.
Parce qu'on a de plus en plus, malheureusement, deux personnes qui sont exclues de tout cet accès.
Vous diriez de plus en plus, quand on entend Dominique Dardel en 2006 dire « la priorité pour nous lorsqu'on accueille des gens à l'EPN, c'est de leur créer une identité numérique », donc on entend par là, en tout cas pour commencer, une adresse mail, il vous arrive encore, vous, au quotidien, à la Goutte d'Or à Paris, d'accueillir des gens qui n'ont pas d'adresse mail et qui ne savent pas gérer une entrée ou une sortie de courrier?
Mais énormément. En fait, nous, en gros, on accueille... on forme à peu près 450 personnes par an, on va dire. Environ 250 qui viennent s'inscrire individuellement pour suivre des cours, des ateliers, des stages. Et très souvent, la première porte d'entrée, c'est j'ai besoin d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Et quand on commence à creuser, à leur demander est-ce que vous avez un usage, est-ce que vous savez faire des petites choses, est-ce que vous avez un email, très souvent, ils en ont un, mais ils ne savent pas l'utiliser, en fait. Il a été créé pour X raisons, ou parce qu'ils ont un smartphone, parce que beaucoup, beaucoup de personnes maintenant sont quand même équipées de smartphones.
Mais viennent à l'EPN,
parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on sait faire des choses qu'on l'utilise, qu'on se l'approprie, et qu'on se l'approprie dans tous les domaines. Et c'est pour ça aussi qu'on accueille de plus en plus un nouveau public qu'on n'avait pas il y a quelques années, qui se sent exclu du numérique, mais parce qu'en fait, maintenant par exemple, pour avoir son attestation CAF, il faut le faire en ligne, avant de se déplacer.
Donc c'est la caisse des allocations familiales.
Pardon, caisse des allocations, voilà. On devait se déplacer, on avait le conseiller qui nous imprimait la feuille. Maintenant, c'est... il faut se débrouiller seul, le faire en ligne. Donc beaucoup de personnes qu'on n'avait jamais vu avant arrive, voilà, j'ai besoin d'imprimer une attestation. Comment je fais ? Pour les mutuelles, les caisses de retraite, maintenant les attestations de paiement, elles ne se font qu'en ligne. Il faut se créer un compte en ligne, il faut pouvoir récupérer son attestation seule. Les rendez-vous, par exemple, pour demander un renouvellement de carte de séjour, ça ne se fait qu'en ligne. La cantine, la caisse des écoles, etc., les centres de loisirs, on paye en ligne, on inscrit en ligne.
Ce qui pour beaucoup peut paraître à la fois une évidence et une facilité, et ce qui en fait peut créer une exclusion extrêmement forte.
Exactement, parce qu'en fait c'est un frein en plus pour beaucoup de personnes. Il pouvait y avoir il y a quelque temps le frein, on va dire, linguistique, social, etc., assez fort, mais en plus maintenant il y a une nouvelle couche entre guillemets numérique ou enfin, d'inclusion numérique qu'ils n'ont pas forcément accès, en fait. Et ça, on le remarque, nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un vrai travail à faire, je pense, à construire avec les services publics, parce qu'il y a de nombreux enjeux pour les personnes dans notre société, et on n'a pas assez de moyens, ni humains, ni financiers, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, ces besoins qui sont de plus en plus forts, en fait.
Et là, vous parlez des moyens dans ces espaces publics numériques,
oui,
dans ces lieux-là.
Exactement.
Parce qu'en fait, du coup, il y a de plus en plus de personnes,
oui,
de plus en plus de personnes précaires qui nécessiteraient de plus en plus, du coup, d'accueil. Et vous, vous n'êtes pas en mesure de répondre.
Exactement. Pas à tout, en tout cas. C'est-à-dire que, après, la précarité, c'est pas dans le sens, c'est pas forcément dans le sens où on l'entend, parce que beaucoup de personnes aussi savent faire des choses avec leur smartphone. Ils ont, on va dire, une pratique régulière, mais c'est pas pour ça que si on leur demande d'envoyer un CV, une pièce jointe par mail,
ils vont être autonomes.
Ils savent pas le faire. Pour certains, c'est pas parce que on en parlait tout à l'heure, les digital natives, les jeunes qui, soi-disant, sont nés dedans, c'est pas pour ça qu'ils savent s'approprier l'outil et faire des choses pour s'insérer professionnellement ou pour être, on va dire, un cyber-citoyen, etc. Ils ont une pratique, ils ont un usage. Mais après, transférer ces compétences-là pour un usage quotidien, régulier ou professionnel, c'est compliqué. C'est l'appropriation, en fait, qui est compliquée et qui peut être longue.
Et qui se fait à long terme. Voilà, c'était le sens de
c'était
la suite de ma question. C'est que tout ça, ça ne peut pas être simplement l'objet d'une heure trente. Viens, je te montre, tu t'assois. Et
exactement,
si vous parlez d'appropriation, ça veut dire que c'est aussi des jeunes gens ou des moins jeunes gens que vous devez voir sur la longueur.
Exactement. Et on a des personnes, parfois, qui viennent 2-3 mois régulièrement, qui suivent des ateliers et des temps de ce qu'on appelle, nous, de libre accès. C'est-à-dire qu'elles s'entraînent, elles ont la possibilité de s'entraîner, elles sont accompagnées. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à leurs besoins, leurs questions, leurs attentes. C'est un temps d'entraînement et de pratique en plus. Et une fois qu'elles ont fait un certain nombre d'ateliers, d'entraînements, parfois elles disparaissent, ne pratiquent plus ou pas chez elles. Et on les revoit 6 mois, 1 an après, bah voilà, j'ai tout oublié. Puis ça change aussi, beaucoup de choses changent. C'est-à-dire qu'on est quand même tributaire aussi et à la fois de l'outil informatique, enfin des systèmes d'exploitation qui changent, des logiciels qui changent, des téléphones aussi.
Mais aussi des pratiques administratives.
Des pratiques administratives, les sites, par exemple, pour ne citer que Pôle emploi, le site de Pôle emploi, il change tous les 3 mois. Donc on a toujours des besoins et on a des personnes qui reviennent, qui ont oublié ou une partie et qui ont de nouveaux besoins, de nouveaux ateliers, etc. Et constamment, nous, on se met en fait on essaye en tout cas dans la mesure du possible de répondre à ces besoins-là en se remettant tout le temps en question, en proposant de nouveaux ateliers, des nouveaux débats, discussions. On organise des apérotiques, nous on appelle ça comme ça, ouvert sur les nouvelles technologies, une thématique, une soirée. On vient, il y a 3 intervenants, on discute, on débat, on mange un petit truc en même temps. Il y a des petits ateliers pour aussi permettre aux personnes qui ne viennent pas suivre des ateliers, stages ou autres dans notre EPN, pour venir aussi discuter de ces questions-là. On n'est pas juste un lieu, entre guillemets, de formation ou d'orientation ou d'accueil. On est aussi, je pense, un endroit où on vient aussi diffuser la culture numérique, en fait. Enfin, c'est aussi important. Et surtout pour des publics non avertis ou un peu plus éloignés. Ouais.
Marie-Claire Magon, vous, quand vous poussez la porte de cet espace-là, de ce lieu-là, vous avez une adresse mail ?
Ah oui.
Vous aviez déjà une adresse mail ?
Non, l'adresse mail, quand j'ai poussé la porte, comme vous dites, quand j'ai poussé la porte, après j'ai eu une adresse mail. Mais après, je ne sais pas. Mais moi, ça, je vous dis, depuis que je suis là, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup servi et j'en suis très contente. Alors, je pense toujours continuer tant que je peux. Je vais continuer parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Ben voilà.
Quand vous entendez Anthony Offret, Virginie Maurice parler d'une nouvelle couche d'utilisateurs, d'une nouvelle classe d'usagers, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez à Brest ?
Oui, tout à fait. Et en fait, pendant que Virginie Maurice parlait, moi je me suis permis d'aller voir un petit peu sur Internet et j'ai ouvert l'enquête qui s'appelle Usage du numérique en Bretagne 2016, qui est faite par le laboratoire Marsouin, qui est un laboratoire d'études sociologiques, enfin un observatoire sociologique des usages du numérique. Et en fait, tout à l'heure, je parlais un peu de la naissance des espaces publics numériques fin des années 90. Et en gros, les espaces publics numériques sont en permanence au premier plan de ce qui se passe entre la société et le numérique, ou en tout cas comment le numérique se saisit de la société, quels sont ses impacts directs sur les gens, comment les gens voient arriver les sites de Pôle emploi qui changent, comme le disait Virginie, les enjeux du numérique, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité, les informations, on nous parle d'imprimantes 3D qui font la révolution, on nous parle de voitures qui conduisent toutes seules, on nous parle d'aller sur Mars bientôt. On nous parle de robots logiciels qui feront le travail des notaires, qui font le travail des avocats, etc. Et on a tout ce que les sociologues qualifient de techno-fantasme. En fait, en gros, on a nos start-up qui nous vendent la vie 2.0, la vie numérique facilitée, etc. Et puis nous, simples citoyens, entre guillemets, on est avec notre ordinateur, nos emails, nos compétences et nos savoir-faire, et on ne sait pas trop. Certains d'entre nous utilisons Google, alors qu'il y a d'autres moteurs de recherche. Nous utilisons Facebook, alors qu'il y a d'autres réseaux sociaux. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Google et Facebook, par exemple, tentent à nous enfermer dans nos centres d'intérêt personnels. Et c'est que Google nous donne des informations qu'on cherche. Facebook nous met en relation avec les personnes ou avec les objets qu'on veut acheter ou avec les personnes qui pensent comme nous. Il n'y a pas de... Enfin, ces outils technologiques ont un impact sur nous et ne visent pas à ouvrir nos horizons, à cultiver nos esprits critiques, à nous permettre d'aller voir ailleurs. Et ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont éloignées des usages du numérique, ça concerne tout un chacun.
Bien entendu, mais est-ce que à Brest, vous constatez justement qu'il y a, parce que c'était quand même assez intéressant de se rendre compte que, contrairement justement à tout ce que vous décrivez, à savoir en effet peut-être un élargissement, en tout cas dans le discours de la pénétration de la culture numérique dans la population française, quand on entend Virginie Maurice, on se dit que certes ça a lieu, mais que par ailleurs il y a des difficultés qui finalement s'accroissent. Est-ce que à Brest, vous voyez arriver des personnes qui, face à tout ça, sont perdues, ne savent pas faire et sont relégués à une exclusion plus grande?
Oui, il y a tout à fait ça. Oui, complètement. Oui. Oui, des gens qui viennent, qui disent, mais moi je sais pas, ou l'ordinateur, franchement, je dois faire. Quand on parle de l'école, tous les outils administratifs particulièrement mis en place par l'administration et qui rendent obligatoire la compétence liée à Internet. Et ça, c'est un vrai problème. Le fait qu'il n'y ait plus d'alternatives possibles, parce que les gens sont équipés, oui, les gens ont des savoir-faire, mais on est à 82% de la population, et donc il reste 18% des gens.
Et ça fait beaucoup.
18%, c'est énorme, c'est une personne sur 5. Voilà.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux. Cock-locked and ready to rock, ready to rock. Shut me up, rough, tough, and hard to bluff, hard to bluff, hard to bluff, hard to bluff. You can't dumb me down. I got no need for coke and speed, coke and speed, coke and speed, coke and speed. You can't shut me up. You got no urge to binge and purge, binge and purge, binge and purge. You can't dumb me down.
I interface in my database is in cyberspace. I wear power ties, I tell power lies, I take power naps, I run victory laps. I read junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash boards. I'm tireless and I'm wireless, I'm an alpha male on beta blockers. Interactive, I'm hyperactive, from time to time I'm radioactive. I take it slow, I go with the flow, I ride with the tide, I get lying in my stride. I don't snooze, so I don't lose. I keep the pedal to the metal and the rubber on the road. I've been pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packed, hosted, freeze-dried. Pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packed, hosted, freeze-dried. And I'm hanging in, there ain't no doubt, and I'm hanging tough. Over and out, over and out, over and out.
Souvent de ségrégation, et ce terme a un sens assez précis, ça veut dire que les différentes couches et classes de la société ont leurs espaces particuliers, c'est-à-dire on met les ouvriers dans les uns, les cadres dans d'autres, les grands cadres ailleurs, et bon, tout est séparé. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette idée et voir que c'est tous les éléments de la vie sociale qui ont été séparés les uns des autres sous prétexte de fonctionnalisation. Si vous regardez ce qui se passait dans les villes autrefois, les espaces n'étaient pas spécialisés. Par exemple, la place du marché était aussi une place de rassemblement et la place sur laquelle le peuple se venait exprimer ses opinions et ses décisions politiques quand il était consulté, par exemple. Bon, mais ce qui arrivait assez souvent, parce qu'il y avait une vie urbaine intense, c'était polyfonctionnel, ces espaces. Or, on a tout fonctionnalisé, tous les espaces sont spécialisés.
On entend ici la voix de Michel Régnier dans un film qui s'appelle Urbanose. Dans la voix d'Henri Lefebvre, excusez-moi, dans un film qui s'appelle Urbanose, réalisé par Michel Régnier, je retombe sur mes pattes, pour parler de justement cette notion d'espace public, puisque dans EPN, ces espaces publics dont nous parlons cet après-midi, il y a cette première qualification d'espace public avant même qu'il s'agisse de numérique. Vous disiez tout à l'heure que, Virginie Maurice, qu'il y avait des déficits en termes de moyens, en termes de financiarisation. L'espace public, ça veut dire que ça relève d'un service public, ça veut dire que vous êtes financé par l'État, par la ville, par la collectivité territoriale, par le département, par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Qui est-ce qui vous donne ou ne vous donne pas assez d'argent?
En fait, nous, les espaces publics numériques, en fait, en tout cas à Paris, parce que c'est un peu différent de certaines régions, on est financé... par la ville de Paris. Voilà. Après, on est quand même dans des lieux, donc on est quand même ancré au territoire et donc dans des zones qu'on appelle politiques de la ville. Donc on a des financements liés pour beaucoup à cet ancrage dans les quartiers. Après, par exemple, on peut avoir certains financements, notamment des aides au niveau des salaires, qui sont versés par l'État. Et sinon, on répond à des appels à projets de la région ou autres pour avoir d'autres sources
et
de financement.
Et des budgets supplémentaires,
voilà,
mais sur des projets
particuliers,
plus particuliers, pour des publics, à plus court terme.
Particuliers, le plus souvent, oui.
Du côté de Brest, comment se finance l'EPN des petits débrouillards de Bretagne?
Bon, c'est exactement les mêmes modalités de financement qui ont été décrites, hein, à savoir on a des financements sur projet. Le Visa Internet Bretagne était quand même une formation qui était mise en place par la région Bretagne et qui nous permettait d'avoir accès à des financements pour les personnes qui étaient formées dans ce cadre-là. Et puis, les petits débrouillards Bretagne, c'est une association de culture scientifique et technique au départ, et nous avons, dans ce cadre-là, ouvert un espace public numérique, ce qui fait que tous nos autres projets qui sont en lien avec cet espace public numérique, puisque grâce à cet espace public numérique et sur les questions numériques, avec la ville de Brest notamment, qui a un appel à projet annuel assez intéressant, puisque cet appel à projet, en gros, c'est lancer vos idées pour développer les usages du numérique dans les quartiers, et on va pas les classer les uns par rapport aux autres pour ne faire gagner que les trois, entre guillemets, meilleurs selon le jury, mais c'est bien tous ceux qui candidatent et qui proposent des projets qui sont reçus par la ville, et la ville met en relation les acteurs associatifs, individuels, entre eux, pour mutualiser des projets, et puis trouve des solutions, soit financières, soit matérielles, hein, puisqu'ils mettent à disposition du matériel, ou par de la récupération, hein, la mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés, ou des choses comme ça, pour permettre à chacun des projets déposés dans le cadre de l'appel à projet de pouvoir se réaliser, en fait.
Et vous avez l'impression de travailler avec des moyens insuffisants, parce qu'on disait en tout début d'émission que les EPN étaient des lieux parmi d'autres, hein, qui dans le maillage urbain et dans le maillage social avaient un rôle central, en tant qu'ils étaient identifiés par les usagers, par la population, comme aussi un lieu de rassemblement, d'information, de partage. Il se trouve que ces lieux-là, ces temps-ci, sont pas toujours en très bonne santé, sont parfois même menacés. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté ?
Non, on n'a pas assez d'argent, évidemment. Moi, j'ai des propositions, hein. Moi, je proposerais, sur le modèle du 1% culturel, que, étant donné qu'on investit aujourd'hui des milliards pour faire des trous sur le bord des routes pour mettre de la fibre optique, eh ben, qu'on consacre 1% de ce budget investissement aux infrastructures numériques pour l'appropriation sociale, des enjeux du numérique, de la formation du numérique, et puis et faire que mettre des fibres optiques sur le bord des routes ne soit pas égal à brancher les portefeuilles des citoyens français sur les comptes en banque des Google, Facebook, Amazon et Apple, puisque ça, en fait, c'est ce qui risque de se passer. Si on n'apprend pas aux petits commerçants locaux, parce que l'enjeu est là aussi, aux petits commerçants, à pouvoir développer son commerce via Facebook ou via d'autres types de réseaux sociaux pour relocaliser l'activité, si on n'apprend pas aux gens que peut-être que faire ses courses à la bibliothèque du coin, le livre ça sera peut-être un peu plus cher, et encore c'est pas sûr, c'est plus intéressant d'un point de vue économique que de l'acheter chez Amazon, on prend des risques pour l'économie locale, on prend des risques pour le petit commerce de nos villages, de nos villes et de nos quartiers, même parisiens, et je pense qu'il y a une vraie réflexion sociale, économique et sur les usages du numérique à avoir, et je pense que les EPN sont des espaces où ça se discute et ça se réfléchit aussi. C'est tout ça les enjeux du numérique, en fait. C'est pas seulement, et l'EPN n'est pas seulement sur les questions de une personne ne sait pas utiliser Internet, elle va à l'EPN et elle apprend à utiliser Internet. Elle se pose des questions sur l'évolution de notre société aujourd'hui, du 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils technologiques, qu'est-ce qu'on fait réellement, qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme, qu'est-ce qui est de l'ordre de la peur, parce qu'on a aussi des peurs liées à Internet, hein, le nombre de gens qui n'osent pas payer avec leur carte bancaire sur Internet, c'est pas méchant, il n'y a pas de diable qui nous vole notre code de carte bancaire et qui va dépenser tous les sous.
Par conséquent, ces lieux-là des EPN sont aussi un lieu où se transmet, pour reprendre ce que disait Virginie Maurice tout à l'heure, aussi une forme de culture numérique, au sens qu'il n'y a pas simplement que des usages de la pratique technique, mais aussi quelque chose qui relève d'une discussion démocratique avec, au cœur de ça, qu'est-ce qu'on fait des outils, qu'est-ce qu'on fait de la vitesse de transmission d'informations, qu'est-ce qu'on fait de la décision d'implantation du réseau, etc.
Exactement. Et je dirais même que les espaces publics sont en première ligne sur ces questions-là, et les choses bougent tellement vite, rendez-vous compte, en 2000... La question, c'était accès à Internet et à l'ordinateur. Quelques années plus tard, 10 ans après, c'est devenu qu'est-ce que je fais avec mon ordinateur ? Les publics ont changé, on avait des jeunes en recherche d'emploi, après ce sont des personnes plus âgées qui veulent être connectées avec leur famille, après reviennent les jeunes sur les questions de l'administration, Pôle emploi, recherche d'emploi, etc. Et en fait, l'espace public numérique et l'animateur d'espace public numérique en première ligne doit avoir des compétences sans cesse mises à jour, etc. Et on se nourrit forcément, enfin, il y a des réseaux français, hein, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, où on peut partager les savoir-faire et ce qui se passe dans nos espaces publics numériques. Et je dirais qu'on se nourrit aussi des observateurs et de la science en train de se faire là-dessus, à savoir notamment l'étude annuelle du CREDOC sur les usages du numérique. Nous, en Bretagne, on a de la chance d'avoir ce laboratoire dont je vous parlais, Marsouin, qui sort régulièrement des études sur les usages du numérique. Et je pense que travailler avec des scientifiques, travailler en réseau avec les autres espaces publics numériques qui sont confrontés à des questions différentes suivant les territoires, puisqu'aujourd'hui on a de très très grandes différences de territoire. Hein. Pensez, moi je sais que j'avais travaillé avec Louis-Julien de Laboère, un animateur d'espace public numérique de Lampol-Ploirzel, un petit bled à la campagne à 40 km de Brest, et lui a des problématiques d'espace public totalement différentes de celles dans un quartier populaire à Kéréden comme le nôtre. Pourtant, les activités qui y sont développées ont donné naissance à des choses. Il a expérimenté, lui, Julien, hein, je vais citer juste comme exemple pour montrer les enjeux de transformation sociale. En fait, en gros, il est assez militant sur les questions numériques. Il était intéressé par le projet OpenStreetMap. Hein, c'est un projet de cartographie collaborative, on va dire une sorte de Wikipédia des cartes géographiques. Et puis, il a impliqué les habitants de son village dans cette cartographie. Et donc, les gens se sont mis à cartographier le village, à tel point que la carte sur OpenStreetMap est devenue plus performante que la carte du système d'information géographique de la mairie. Et du coup, la mairie a décidé de prendre la carte OpenStreetMap comme carte de référence pour tous les, y compris le service public.
Et dans cet exemple-là, on se rend bien compte que ça excède le seul usage technique de OpenStreetMap, mais que ça va bien au-delà, notamment sur, par exemple, la réappropriation d'un territoire par la cartographie. Et donc ça touche à des consciences et des pratiques citoyennes et d'habitation. Virginie Maurice, sur les questions des moyens, parce que c'est assez important. Vous disiez tout à l'heure, vous détaillez les différentes façons de financer les projets dans un EPN. Concrètement, vous diriez aujourd'hui que vous avez les moyens nécessaires pour travailler justement, dignement, dans l'accueil des personnes que vous recevez à l'EPN ?
Non, pas du tout. Et même si les finances sont là, elles stagnent depuis des années. Et on sait très bien que le coût de la vie, tout augmente en fait. Donc on peut pas dire même si la subvention reste la plus ou moins la même, en fait ça diminue. Et on n'a pas suffisamment de moyens, non. D'autant que cette année aussi, ce qui s'est passé, en tout cas pour les EPN parisiens, on va dire qu'on est une quinzaine identifiés EPN parisiens, et pour beaucoup font partie de centres sociaux. Dont nous, même si on est affilié aux centres sociaux. Mais ce qui s'est passé cette année, c'est que la ville de Paris a décidé de ne plus financer les EPN qui n'étaient pas centres sociaux. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont restés à la porte et qui vont a priori se transformer en maisons des services, sauf qu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui ce que c'est, ce que ça va être, quel va être le financement et pourquoi, quel objet, etc. Et que c'est dommage aussi dans le sens où nous on se voit régulièrement avec les autres EPN pour échanger les pratiques, pour discuter, pour avoir une réponse globale, même face à, j'en parlais tout à l'heure, mais à certaines administrations où on aimait vraiment travailler, collaborer avec elles pour travailler sur leur site, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça nous manque cruellement. Et pour avoir des réponses à construire ensemble, on a besoin d'être plus fort qu'un EPN qui va aller demander à Pôle emploi, j'ai besoin qu'on me crée un compte test, même pour former les gens sur cet outil-là, parce qu'on n'a pas de compte test, entre guillemets. Donc quand on doit montrer quelque chose, on est obligé de prendre le compte de quelqu'un, et c'est toujours compliqué. Il y a cette question de la confidentialité, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà. Et nous, en tant que EPN parisien, on voulait avoir, à un moment, on avait cette idée d'union des EPN pour répondre en force aussi. On a une expertise depuis un certain nombre d'années, on sait faire les choses, je pense, et travailler en collaboration avec les institutions, les services publics pour justement aller plus loin dans tous ces usages et pratiques. Et ça, on n'a pas aujourd'hui. Et le dialogue est compliqué avec ces administrations. Certains EPN arrivent à faire des choses en local. Nous, on travaille par exemple avec le service public, social du quartier, le service social départemental du quartier, notamment sur les questions d'e-administration. On travaille avec des assistantes sociales, elles sont là aussi avec nous sur ces parcours-là, elles nous aident sur ces parcours-là et accompagnent des personnes qu'elles accompagnent au quotidien, mais à travers ce parcours informatique et d'apprentissage à l'e-administration. Et ça, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec le service social proche de chez nous.
Et qui porte ses fruits.
Et qui porte ses fruits. Et on va réitérer, et on réitère, mais on n'a pas de moyens en plus pour faire ça. Voilà. Et cruellement, on manque de moyens. Oui, c'est sûr.
gros succès pour ce morceau qui s'appelle Futur Futur, qui est tiré de l'album Valeurs Modernes, signé Yann Art Le Monnier. C'est encore une trouvaille merveilleuse de la souterraine.biz. C'est aussi un morceau qui fait penser à quelques mélodies de jeux vidéo. Est-ce que les jeunes gens, Virginie Maurice, parfois viennent à l'EPN pour jouer? Est-ce qu'ils ont droit?
Alors, plus maintenant. Enfin, disons que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a quelques années, oui, on avait du libre accès qu'on appelait spécial enfant, où les jeunes venaient pratiquer, et notamment jouer beaucoup aux jeux vidéo, oui. Maintenant, en fait, ils ont un petit peu disparu. On les voit plus en tant que tels, mais par contre, comme on a des partenariats avec des associations jeunesse du quartier, on touche ce public-là à travers des ateliers spécifiques qu'on anime auprès d'eux, que ce soit jeux vidéo, création de sites, création de jeux vidéo, du code, robotique, un peu de bidouille.
Plus tourné vers l'aspect créatif.
Exactement. Oui, et puis aussi web radio, ça cartonne dans le quartier quand même, où on anime beaucoup de web radio, que ce soit auprès des jeunes ou des seniors, justement pour essayer d'échanger, de faire de la recherche.
Diffuser en ligne?
Diffuser, alors oui, en ligne, mais pas en direct, c'est-à-dire qu'on fait la web radio, on fait le montage après, et après c'est mis en ligne. Oui, sur le site, en fait, on a un site de quartier collaboratif qui est porté par notre association qui s'appelle gouttedorezvous.org, et là on met un petit peu tout ce qui se passe dans le quartier à travers la vie associative, mais pas que, et notamment il y a toutes nos web radios. Oui.
Et du côté de Brest, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, Anthony Offrette, le jeune public, pour le prendre fort largement et toujours très difficile à décrire, il vient chercher quoi à l'EPN?
C'est très difficile de répondre en général.
Bien
Par
sûr.
Contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Brest, il y a un réseau de points d'accès public à Internet, une centaine de points d'accès public à Internet pour 140 000 habitants à peu près, ce qui fait que chaque lieu va développer des spécificités. J'en connais un notamment, alors je ne connais pas les 100, évidemment, le patronage laïque Guérin, à Brest, qui lui fait des jeux en réseau, qui a des associations qui viennent mener des activités, etc. Donc aujourd'hui, on a plutôt une différenciation des activités, c'est-à-dire que chaque espace public numérique va se doter, comme je vous disais, de Fab Lab, ou alors de web radio, nous on a une web télé, on fait des activités de bidouille numérique, etc. Donc il y a une diversification des activités, mais comme souvent il y a un, deux salariés, pas plus, on ne peut pas tout faire tout le temps, donc chaque EPN va avoir son identité, ses activités, et puis qui va être décidé suivant soit les compétences des salariés qui sont là,
soit les demandes.
Comment ?
Et soit les demandes du public.
Les demandes ou parfois les opportunités de projet, voilà, c'est ça.
Je signale, puisque l'annexe EPN Paris a été très active pendant cette discussion sur Twitter, ils disent « Chez nous, les soirées jeux vidéo pour les jeunes leur permettent d'apporter leurs jeux et leurs consoles. » Donc on peut renvoyer vers eux.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
14h53, cette semaine, nous écoutons à la fin de l'émission les récits de Valérie Novelle. Son métier consiste à lire attentivement des scénarios et à partir à la recherche des lieux qui sont décrits ou évoqués. Aujourd'hui, elle raconte la recherche d'un grand immeuble vide pour le film Le Grand Partage.
La majeure partie du film se passait dans un immeuble haussmannien parisien où il nous fallait minimum 3-4 appartements de plus de 200 mètres carrés, où on devait tourner dans toutes les parties communes, c'est-à-dire hall d'entrée, escalier, palier, avec des 50-60 figurants. Voilà, donc ça, c'est un immeuble vide. C'est pas possible de tourner. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué de tourner dans un immeuble habité. Donc, l'immeuble vide à Paris, c'est... Il y en a, mais c'est vraiment le Graal pour le repéreur, quoi, parce que ça donne beaucoup d'aisance pour la mise en scène qui peut... S'installer vraiment dans un lieu un peu comme un studio en décor naturel, quoi. On en fait son studio. Et donc là, j'avais cette demande. Donc il y avait 2-3 mois d'occupation, ce qui est assez énorme. Et puis après avoir passé, 3-4 jours à mon bureau à essayer de contacter toutes mes connaissances dans l'immobilier à Paris, je savais que ça allait pas suffire, mais... C'était peut-être pas la bonne méthode. Donc j'ai pris mon scooter et puis en sortant de chez moi, j'ai commencé, sans savoir où j'allais, puis j'ai commencé à me dire dans quel quartier en ce moment à Paris il y a de l'immeuble haussmannien qui pourrait être vide. Donc là, j'ai foncé derrière les Champs-Élysées et je suis tombé sur une mine. Donc là, il y a un moment d'excitation. Bon, c'est pas du tout ce qu'on va trouver derrière. Donc, je vois plein de pâtés de maison là qui étaient manifestement vides. Je trouve un petit bout d'agence qui s'occupait de ça. C'était, il y avait personne. Donc, j'attends un peu. Je tourne dans le quartier. Je continue. J'y retourne. Du coup, je rentre chez moi et puis je me dis que je retournerai le lendemain. Et en rentrant chez moi, sur le chemin, je tombe sur un immeuble qui me semble vide. Donc je fais une photo de l'extérieur, impossible de savoir. Il n'y avait personne à qui se renseigner. Bon, voilà, il était déjà tard, donc je rentre. Et le lendemain, je retourne donc derrière les Champs-Élysées. Je rencontre la dame qui s'occupait de tout ce patrimoine et qui me parle d'un immeuble dans le 17e arrondissement qui était vide. Et c'était celui où j'étais passé la veille au soir. Où là, je savais que si c'était possible, c'était gagné, quoi. Bon, on avait il y avait des appartements où le plancher avait été cassé, des cheminées qui avaient été volées, mais oui, parce que des appartements de 250 mètres carrés, deux appartements par palier, c'est très gros immeuble. Hein. Il faut vraiment que l'immeuble soit très gros. Donc, à l'œil, on voit si ça va être plutôt 180, 200 mètres carrés ou vraiment des très grands appartements. Là, c'était le cas. Bon, après, on a mis du temps à négocier, à être sûr de pouvoir y tourner, mais en gros, dans la semaine, ce qui est quand même assez rare, j'étais assez fier, hein, je vous avoue, parce qu'on est plutôt content quand ça se passe vite. Souvent, les repérages, c'est un métier de longue haleine, faut être vraiment persévérant. Moi, j'ai continué à chercher parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir avoir cet immeuble en entier. Mais voilà, c'était une belle, belle trouvaille, là.
On n'ira pas jusqu'au bout de cette magnifique interprétation de Lucas Delargue, du Schubert, pour terminer cette émission sur les espaces publics numériques. Un très grand merci à vous, alors peut-être du côté usager, Marie-Claire Magon, et ça me permet de dire que, notamment pour cette EPN à la Goutte d'Or, il y a au moins 15 bénévoles qui permettent de tenir les ateliers, de faire marcher le lieu. Donc merci à vous, Virginie Maurice, d'avoir été là, et merci à vous, Anthony Offret, d'avoir été au téléphone depuis Brest. Nos amis au Breton, nos amitiés au Breton.
Avec plaisir. Ouais. Et je remercie Romain Sabarda quand même qui a permis d'inventer le Fab Lab mobile dans les Côtes d'Armor. C'est important ça.
C'est fait. Les Nouvelles Vagues, on peut se retrouver sur Twitter, Facebook et franceculture.fr où le podcast est en ligne et partageable évidemment. Merci à Romain de Bec-de-Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon était à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui c'était Alexandre Dang. Au droit d'auteur, Ben Kachmarek.